Nous avons un fils. Il est roi. Nous sommes régents. Et nous possédons M. Mazarin comme Premier ministre. Tout va pour le mieux.
Bonjour, aujourd'hui dans le fil de l'histoire, on débute une nouvelle série consacrée à Anne d'Autriche, l'épouse Louis XIII et mère de Louis XIV. Comment Anne d'Autriche est-elle devenue régente absolue de la France? À écouter du lundi au vendredi à 14h, à podcaster soit chronique après chronique, soit dans la totalité de la série qui est aussi diffusée le dimanche soir à 21h.
Les princesses sont faites pour être mariées et perpétuer une dynastie.
Anne d'Autriche est une de ces princesses étrangères qui, petite fille à peine pubère, objet de marchandage de la raison d'État, ont été mariées à nos rois de France, eux-mêmes souvent de jeunes garçons peu préparés à cette épreuve imposée. C'est ainsi qu'en 1615, Anne d'Autriche, infante d'Espagne et du Portugal, archiduchesse d'Autriche, princesse de Bourgogne et des Pays-Bas, âgée de 14 ans, a épousé Louis XIII, jeune roi de 14 ans lui aussi. D'Anne d'Autriche, la postérité a gardé l'image d'une reine bigote, indolente et soumise, écrasée d'abord par une belle-mère féroce, Marie de Médicis, puis par des hommes tout-puissants. Son époux, qui la délaisse et se méfie d'elle, deux ministres, Richelieu et Mazarin, qui la manipulent, et un fils, l'éblouissant Louis XIV, futur roi soleil. Et comme si ça ne suffisait pas, les pamphlets misogynes de son vivant n'ont pas épargné cette femme, étrangère de surcroît, qui après la mort de Louis XIII est devenue régente et comble de traîtrise, a choisi de gouverner la France avec un Italien. Pendant la Fronde, l'épisode le plus périlleux pour la monarchie avant 1789, la haine envers Anne d'Autriche est telle qu'on l'accuse de 1000 complots et même d'être la maîtresse de Mazarin. Reine la plus grande du monde, si vous aviez le cul moins chaud, chassez ce cardinal Ribaud, dit une chanson qui traite la régente de double putain. Jusqu'à nous, la postérité d'Anne d'Autriche est aussi largement tributaire d'un merveilleux roman du XIXe siècle, Les Trois Mousquetaires, où Alexandre Dumas dresse, lui, le portrait romantique d'une jeune et belle reine, délaissée par un mari sinistre, et éprise du séduisant duc de Buckingham, auquel elle fait cadeau de ses fameux ferrets de diamants. Par la roublardise de la méchante Milady, espionne de Richelieu, Louis XIII en sera informé. Il faudra tout le courage et l'ingéniosité du fidèle D'Artagnan pour, au péril de sa vie, récupérer le précieux bijou et ainsi sauver l'honneur de la reine.
Il ne viendra plus, Constance.
Il viendra, votre majesté.
Non, c'est le cardinal qui l'emporte. Je serai répudiée, exilée.
Je le jure, votre majesté, il viendra.
Sa majesté, la reine !
La reine a ses ferrets, éminence. Vous devez être content.
Presque autant que votre majesté.
Belle histoire, certes. Mais dans ce fatras de représentations qui meuble notre imaginaire collectif, qui était vraiment Anne d'Autriche? Pour le savoir, nous avons la chance d'avoir avec nous Joël Cornette. Bonjour.
Eh bien bonjour, merci.
Vous êtes historien, spécialiste de la France moderne et auteur d'une passionnante biographie qui, sans nul doute, fera date car elle renouvelle totalement la connaissance de cette femme, Anne d'Autriche, la régente absolue, parue en 2025 chez Gallimard. Avec vous, toute cette semaine, nous allons tenter de raconter la vie de cette jeune Espagnole timide et maltraitée qui, un jour, va se métamorphoser en véritable femme d'État qui jouera un rôle politique essentiel pour préserver l'absolutisme royal.
France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
9 novembre 1615. La scène de l'échange des princesses est saisissante. Si saisissante que le peintre Rubens en fera un tableau magnifique que l'on peut voir au Louvre. Sur la Bidassoa, ce petit fleuve du Pays Basque qui marque la frontière entre la France et l'Espagne, un ponton flottant a été construit pour l'occasion solennelle au milieu du cours d'eau. C'est là que, ce jour-là, se déroule ce qu'on appellera l'échange des princesses. La jeune Anne d'Autriche, 14 ans, s'apprête à quitter sa famille et son pays, l'Espagne, pour se rendre en France et se marier avec le jeune Louis XIII. En face d'elle, sur le ponton, il y a une autre princesse, sans doute aussi émue qu'elle, Élisabeth de France, la sœur de Louis XIII, qui, elle, s'apprête à quitter la France pour se marier avec l'infant d'Espagne. Anne d'Autriche est habillée d'une robe à l'espagnole, tissée de toile d'argent, tout en broderie, avec une longue traîne et une précieuse chaîne de diamants. Mais cette tenue, si éblouissante soit-elle, la princesse ne la garde pas.
Pourquoi faut-il qu'on me change ?
Il en est ainsi. Cette princesse doit renoncer à tous les vêtements de son pays d'origine.
Elle doit se changer et c'est donc habillée à la française qu'elle va débarquer sur l'autre rive. On imagine l'émotion de la jeune fille qui quitte pour toujours son pays, sa langue et sa famille. Son père, le roi d'Espagne, l'a accompagnée jusqu'au fleuve. Sachant qu'il ne reverra plus sa fille bien-aimée, il lui adresse ces mots. « Ma fille, je t'ai mariée en chrétienté le mieux que j'ai pu. Va, que Dieu te bénisse. » Mais Anne a encore du chemin à accomplir pour rencontrer ce mari qu'elle n'a jamais vu, auquel pourtant depuis sa naissance, on la destine. Le 21 novembre, enfin, après 12 jours d'une route boueuse où plusieurs fois son carrosse s'embourbe, la princesse épuisée arrive à Bordeaux et rencontre enfin son époux. Louis XIII lui fait la révérence, lui dit qu'il a grande joie de la voir. Le jeune homme était fort beau, rapporte une chroniqueuse, fort bien fait, et sa beauté brune ne déplut pas à notre jeune reine. 4 jours plus tard, le mariage est célébré à la cathédrale de Bordeaux. Pendant toute la cérémonie, les deux adolescents ne cessent de se regarder avec curiosité et tendresse. Au moment où le prêtre proclame leur union, un tonnerre d'applaudissements éclate. Les canons tirent depuis la Garonne, les cloches résonnent dans toute la ville. Le mariage et l'union royale de la France et de l'Espagne se présentent pour l'instant plutôt bien. Mais ça ne va pas durer. Joëlle Cornette, Anne d'Autriche a donc 14 ans quand elle se marie. Qui est-elle à ce moment-là? Quelle éducation elle a reçue?
La première Anne d'Autriche, elle est espagnole. Elle parle évidemment espagnol, castillan. Elle aura beaucoup de mal à se franciser. Et c'est tout le problème. On a vu, vous l'avez dit, elle s'est dépouillée de ses vêtements espagnols. Elle devient française. Elle est presque l'otage d'une raison d'État, comme son mari. Songez qu'ils ont 14 ans, tous les deux. Ils sont, disons, adolescents, et ils doivent assumer ce rapprochement extraordinaire entre les deux plus grandes puissances du temps, que sont l'Espagne, la monarchie presque universelle, puisque l'Espagne conquiert le monde, et la France, qui est la plus grande puissance du temps. Et donc, leur alliance, d'une certaine façon, est fondamentale, parce qu'elle a été conçue pour lutter contre l'hérésie.
Voilà. Contre les protestants.
Contre les protestants, d'une part, et aussi contre l'islam. Et donc, vous voyez, ce mariage est vraiment porteur d'un sens politique, théologique, religieux très fort, je dirais que ça les dépasse tous les deux.
Mais Anne d'Autriche, donc, elle n'a rien à voir spécialement avec l'Autriche.
Ah non, non, sa mère est autrichienne, mais elle est espagnole. Et d'ailleurs, elle porte avec elle la religion extrêmement forte d'un catholicisme de combat. Nous sommes dans l'ambiance de la contre-réforme, c'est-à-dire la réforme catholique contre les protestants. Elle a été élevée justement suivant les canons du Concile de Trente.
Elle est très pieuse.
Très pieuse. Elle l'a appris par sa mère qui est dévote, qui multiplie les prières, les messes, les dons aux pauvres. Et Anne d'Autriche hérite justement de cette piété qui, presque viscérale qu'elle va conserver jusqu'à sa mort. Elle apporte aussi cette piété, je dirais, espagnole, hispanique en France. Et ça va beaucoup jouer dans l'histoire de France jusqu'à son fils, jusqu'à Louis XIV.
Donc elle se marie avec Louis XIII, qui a 14 ans comme elle. Marie Médicis, la mère de Louis XIII, tient absolument à ce que le mariage soit consommé le soir même du mariage.
Marie Médicis pousse pratiquement son fils Louis XIII dans le lit de...
Mais pourquoi cette pression?
Voilà, le mariage, il est fait pour avoir un héritier. Un roi sans successeur, sans dauphin, c'est un risque majeur pour le devenir de la monarchie. Et donc ça va peser très lourd, évidemment, dans le devenir d'Anne d'Autriche. J'oserais presque dire que, si vous me permettez l'expression, c'est un ventre à remplir.
Est-ce qu'il y a une éducation sexuelle des princes et des princesses à cette époque?
Je dirais oui et non. Non officiellement, oui tout de même, on a un témoignage extraordinaire qui est le médecin de Louis XIII, qui s'appelle Jean Héroard, et qui a noté au jour le jour tous les faits et gestes de du roi. Et donc on a les conversations, on a les... Voilà. Et dès que on a su que le mariage se ferait, eh bien on a tout de suite incité Louis XIII à devenir père, c'est-à-dire à faire un enfant à la reine.
À lui expliquer.
Il dit d'ailleurs, ah mais je sais, on m'a dit, monsieur de Souvray me l'a dit, comment faire, je saurai.
C'est quand même dur à 14 ans.
Voilà, et 14 ans, vous imaginez, donc vraiment ça a été extrêmement difficile. La nuit de noces a été ratée, hein, évidemment.
Donc ce mariage ne sera consommé que le 25 janvier 1619 voilà. Et toute la cour sera au courant.
4 ans après.
Merci Joël Cornette. Dans le prochain épisode, nous verrons comment l'atmosphère à la cour va devenir de plus en plus pesante pour la jeune Anne d'Autriche, avec Louis XIII et Richelieu qui la soupçonnent, ni plus ni moins, de trahison.